Je vois des têtes que je connais pas, c'est quand même bizarre. Enfin, vous n'êtes pas nombreux, ceux que je connais pas, je vous rassure. Ça fait plaisir que vous leviez aussi tôt le matin pour nous accueillir quand même. Je meuble en attendant Circé, c'est pas. Parce que si ça se trouve, lui m'attend à Perpète les oies. Il m'a pas reconnu parce que je suis passé en couleur aujourd'hui. Donc les essais micro sont bons, je peux continuer? Tiens, regarde. Ah, il suffit de dire deux, trois sottises et paf! Il écoutait derrière la porte.
Eh bien voilà, puisque on est tous là, bonjour, et je ne crois pas que c'est si tôt le matin, non? Non? Alors, on va discuter de franchir la limite avec un point d'interrogation quand le roman va presque trop loin. Avec moi pour en discuter, parce que c'est eux qui vont discuter, moi je ne vais jamais que lancer les choses. Morgane Cossarieux, en rouge, écrivaine, essayiste, traductrice, spécialiste des vampires, et auteur d'un premier roman remarqué, Dans les veines, qui est une histoire de vampire splatterpunk, comme c'est dit. À sa gauche, Florence Hinkel, auteur de romans pour la jeunesse. On est un peu dans de l'autre côté du spectre du livre. Qui travaille pour une mosaïque d'éditeurs et les derniers livres, Le Chaboté, Théa pour l'éternité, etc. Mais il y en a une trentaine d'autres que vous pouvez voir sur son stand. À droite encore, Alexandra Ivy, écrivaine américaine, de ce qu'on appelle chez nous de la bitlit et chez elle de la paranormal romance. Une série traduite en français, Les gardiens de l'éternité, 9 tomes chez Milady, dont le dernier, Kane, devrait paraître en juin ou est déjà paru, je ne sais pas. À ma droite, Sir Cédric, écrivain toulousain de thrillers souvent fantastiques. On peut citer L'enfant des cimetières, mais aussi les trois romans autour d'Eva Sverta, De fièvre et de sang, Le jeu de l'ombre, Le premier sang. Et le prix Auclair vient de rééditer. Dernièrement, Ange mort, qui était son premier roman. Un peu trash. Et alors, Heyerdahl, hein, qui a une carrière assez longue en science-fiction, et dans le dernier roman, Rainbow Warrior, est paru là il y a quelques semaines ou quelques mois, et fait son chemin. On en parlera évidemment. Alors, je vais commencer par lire un extrait de Morgane Cossarieux, comme ça pour vous mettre dans l'ambiance. C'est le début, première page. C'était une jeune femme, en fait, une femme s'assied sur un banc et voit dans le parc quelqu'un autour d'elle, à côté d'elle. C'était une jeune femme typée asiatique avec son bébé. Le visage de l'enfant était tourné tout contre le sein de sa mère, celle-ci chantonnant, caressant de la main les joues rondouillettes. Martine Renzi réprima un sourire de tendresse. Elle avait 34 ans et bientôt son corps serait trop vieux pour donner la vie. Le bébé, profondément endormi, ne s'éveilla pas quand la mère déposa un baiser dans son petit cou. Quelques paragraphes où Martine Renzi se gagatise un peu en pensant au bébé. Et le dernier paragraphe de ce prologue, entre les doigts de la femme asiatique, la peau du bébé avait viré au bleu, pâle. Elle le souleva en le tenant par une cheville. Sa grosse tête disproportionnée pendouillait au bout de son corps frêle. Elle le laissa tomber dans la poubelle de la raie, juste assez grande pour contenir le minuscule cadavre. Alors Morgane, avec vous, on est tout de suite dans le bain, de sang évidemment. Vous vouliez montrer immédiatement que votre roman allait franchir les limites et avertir le lecteur tout de suite?
Bah, c'est un petit prologue coup de poing, oui, pour passer votre chemin déjà. Si vous ne supportez pas le prologue, vous ne supporterez pas le reste du livre, donc ce n'est pas la peine de continuer.
Et est-ce que vous avez, vous, l'intention, là, de franchir des limites en écrivant ce livre?
Alors moi, je suis une grosse fanade du courant splatterpunk, donc j'explique peut-être. Donc c'est un courant vraiment extrême qui mêle généralement culture punk, gore, violence. Les auteurs principaux, c'est Poppy Z. Braid, Jack Ketchum, Dennis Cooper. En France, on a peut-être Virginie Despentes avec Baise-moi. Je pense que ça rentre dans le courant splatterpunk. Et oui, moi, j'ai voulu vraiment aller très, très loin parce que j'écris ce livre, oui, pour l'inscrire dans ce courant splatterpunk, mais aussi pour réagir face à la bitlite et aux niaiseries qu'on entend sur les vampires en règle générale. Donc, j'ai vraiment voulu faire l'extrême opposé et vraiment rappeler aux gens que les vampires, c'est des... Oui, ils sont beaux, machin, mais c'est quand même des vraies saloperies, il ne faut pas l'oublier. Voilà.
Alors, Alexandra, vous avez l'impression que vous écrivez des niaiseries sur les vampires ?
I still like the sexy vampires. I like the mystery and the myth of the vampires, that the danger of them, but still with the sexy, yummy part.
Moi, je continue vraiment d'aimer beaucoup les vampires sexy. J'aime bien leur côté mystérieux, le côté mythique des vampires, leur côté un petit peu dangereux, mais les beaux vampires sexy, ça me plaît encore.
Ben, sexy, en effet, on va le voir là aussi. Il y a quelques passages assez croustillants dans les romans d'Alexandra. À coup de rein rapide et implacable, il, c'est Arial, l'emmena vers ce sommet périlleux, sa respiration rauque retentissant dans l'air. Soudain, elle ferma les yeux, tellement tendue qu'il fut convaincu de craquer avant de l'avoir comblée. Il ne cessa pas d'aller et venir en elle, puis au moment même où il fut certain de vivre une situation embarrassante, il lui donna un dernier assaut et elle poussa un hurlement de jouissance. Il s'empara de ses lèvres en un baiser brûlant tout en serrant tout contre lui son corps tremblant, et vola en éclats dans un maelstrom de béatitude explosive. Nom de Dieu. Ça, c'est la fille qui est Géline, qui le dit, d'ailleurs, c'est son juron favori. Alors, je vais continuer avec Alexandra, si vous voulez bien. Alexandra, votre littérature s'adresse à des jeunes adultes. C'est, en tout cas, en France, la bitlit est plutôt lue par les jeunes adultes. Vous avez... En parlant assez crûment, je n'ai pas donné le plus cru des extraits. Vous avez l'intention d'être au-delà des limites ou vous les frôlez ? Comment vous voyez ça ?
I think it's not, it's pressing boundaries, but combining the boundaries. When I first started writing, the genres were very set. You had romance, you had horror, and you had comedy. So it's more of combining the three into one new type of romance. And I do think that you have to be careful with how you market it. I don't want it too young. I don't want to have too young of readers. But I think most of us started reading at a young age. And so I think readers are open to the pressing the boundaries.
Alors c'est plutôt une question de fusion des frontières en ce qui me concerne, parce que quand j'ai commencé à écrire, les genres étaient très distincts les uns des autres. Il y avait la littérature sentimentale, l'horreur, la comédie, et moi j'ai eu envie de fusionner un petit peu tous les genres, mais je dois faire extrêmement attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que j'écrive des choses trop crues pour les jeunes lecteurs à qui s'adresse mon public, en fait, à qui s'adressent mes romans. Pour la plupart d'entre nous, on commence à lire très très tôt, mais en fait, je fais très attention quand même au lecteur dans mon écriture.
Florence, ça vous surprend tout ce qu'on dit, vous qui avez l'habitude sans doute d'avoir des contraintes bien plus larges, bien plus fortes que les deux écrivaines précédentes.
Ça me surprend pas du tout. Effectivement, j'ai d'autres contraintes parce que donc moi. Ça va, je parle assez fort. Donc, j'écris pour les enfants et les adolescents. Donc là, il est question de Terre pour l'éternité, qui est mon premier roman de science-fiction pour adolescents. Effectivement, des passages tels que vous les avez lus, je ne peux pas. Je suis obligée, comme je m'adresse à des adolescents, de me les interdire. Cela dit, ça veut pas, je ne me sens pas moins sage, plus sage que ces auteurs. Parce qu'il y a des contraintes, certes, mais de ce type-là. C'est-à-dire, je ne peux pas évoquer de passages pornographiques ou vraiment gore. Voilà, ça, je ne peux pas. Mais je peux repousser d'autres limites, et des limites psychologiques, par exemple, et éthiques. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait dans ce roman. Je me suis intéressée au transhumanisme, qui est un courant que je trouve assez passionnant et que j'interroge, voilà, dans ce roman-là. Donc c'est un courant où les théoriciens du transhumanisme veulent abolir tout ce qui est la souffrance, la mort, la maladie, le vieillissement, voilà, tout ce qu'ils considèrent comme des handicaps. Et donc j'interroge dans ce roman, voilà, quelles sont les dérives possibles. Donc j'essaie de faire réfléchir les adolescents là-dessus. Donc mon héroïne, effectivement, elle franchit cette limite interdite de l'humain, en fait. Voilà, donc elle choisit de subir un traitement qui l'empêche de vieillir. Donc oui, c'est cette limite-là qui est repoussée.
On en revient un peu au sang. Sir Cédric, le sang est au cœur de mes histoires. Vous m'aviez dit cela un jour dans une interview. Le sang qui coule dans les veines de vos héros et héroïnes, mais le sang qui se verse aussi. Et vous avez l'impression d'avoir frôlé, franchi des limites ?
C'est une question que je me suis réellement jamais posée, mais en y réfléchissant, finalement, en fait, ça m'évoque plusieurs choses. Et par rapport à ce que disait Alexandra Ivy, et je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'elle a dit, sur le fait que, jadis, il y avait des frontières très précises entre les différents genres, et depuis une dizaine d'années à peu près, toutes ces frontières sont quand même en train de tomber, et on arrive à il y a plus de limites en fait à la création et aux libertés qu'on peut s'accorder quand on écrit des histoires. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai toujours essayé d'écrire, en mettant tout ce que j'aimais dans mes livres. Donc effectivement de l'horreur, parfois de la pornographie, ça a été le cas dans mon tout premier bouquin, du manga japonais, du film d'horreur italien, de la littérature classique très écrite. Et du coup, effectivement, on joue avec les limites. Parce que effectivement aussi pour moi l'écriture est toujours très ludique et donc en ce sens on peut dire que je m'approche et je joue avec la limite à chaque fois, avec mes propres limites en tant qu'auteur aussi, puisque j'essaie toujours d'aller plus loin dans ce que je fais d'une manière toujours un peu différente. Et, et enfin, par rapport au sang et à mes personnages, j'avais jamais pensé à cette chose-là en ces termes, mais finalement j'ai l'impression que tous mes livres parlent de personnages qui essayent d'aller au-delà de la limite, de la vie, de ce qui est possible, de nos désirs. Et c'est fini. Dans tous mes livres, il y a cette thématique-là d'un personnage qui veut absolument, par exemple, devenir éternel ou le pouvoir absolu et de franchir les limites établies par la société parce qu'il est moralement acceptable pour obtenir ses rêves. Et forcément, à chaque fois qu'on a quelque chose, on en veut toujours plus. Et donc, on va toujours plus loin. C'est un cercle vicieux.
Heyerdahl, dernier roman, Rainbow Warriors. Et là, la limite qu'il a peut-être franchie, lui, et qui en a choqué certains, ce n'est pas d'exercer un droit d'ingérence pour éliminer un dictateur d'Afrique noire, c'est le thème du bouquin, mais c'est de le faire avec une armée composée de LGBT, donc lesbiennes, gays, bi et trans. Est-ce que cette idée LGBT et d'en faire une armée, c'est quelque chose que vous aviez conscience d'être un peu too much ?
Too much, je ne sais pas, mais en tout cas, ce dont je suis persuadé, c'est que ce n'était pas venu à l'idée de quelqu'un d'autre jusqu'à maintenant. Quoi. Mais on a l'avantage, quand on écrit de la science-fiction et quand on fait ça depuis des années, d'avoir toujours des trucs qui sont complètement dingues. Qui sortent de l'ordinaire un tout petit peu. Et puis mettre ça dans le monde réel, ça devient encore plus amusant. C'est vrai que voilà. Mais je sais pas, je franchis aucune limite. J'ai juste mis ensemble des choses qui n'avaient apparemment rien à y faire.
En fait, le titre même de cette conférence, alors franchir la limite, est-ce que c'est un thème qui est aberrant pour vous ?
Je sais pas. On aurait posé la question. Au Marquis de Sade, peut-être qu'il aurait pu dire oui, j'ai franchi un certain nombre de limites, parce qu'à l'époque, voilà, ce sont des gens qui ont écrit à des périodes où jamais on avait osé écrire ce genre de choses. des trucs extraordinaires, mais ce qu'on fait nous, c'est quoi ? C'est quand même bien gentil. On n'a rien inventé. On prolonge des mouvements qui maintenant commencent à avoir 2-3 siècles, voire davantage, parce que les Romains ne se privaient pas non plus pour dépasser un certain nombre de limites.
Morgane, est-ce qu'on peut dire alors que les limites n'existent plus aujourd'hui ?
Oui, je pense. En littérature, non. Au cinéma, peut-être, parce qu'il y a une censure. On ne peut pas faire passer un film à plus de 18 ans, sinon il n'a pas de vie en salle. Pour les livres, ce n'est pas vraiment la même chose. Enfin, bon, on est quand même classé dans les mauvais genres, les genres de l'imaginaire. Mais ce qui est admis comme mauvais genre par les littératures blanches. Mais non, il y a quand même des lecteurs pour ça. On est quand même diffusé. Donc je pense que... Non, il n'y a plus vraiment de limites à franchir. On peut juste être... même pas. Enfin, moi, je sais que mon roman parle de marginalité. Donc, c'est des gens qui ont franchi la limite. Mais enfin, moi, je ne pense pas l'avoir franchi. Je parle de gens qui la franchissent, mais moi, je ne l'ai pas franchi en les écrivant. Voilà.
Sir Cédric, est-ce que la vraie littérature, en fin de compte, c'est une littérature de transgression ?
La vraie littérature, pour moi, c'est une littérature qui raconte des bonnes histoires et qui apporte du plaisir au lecteur. Donc après, ça dépend de chacun. Il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes à ce qu'on leur mette devant les yeux des choses qui vont trop loin. D'autres personnes qui sont en recherche de ça. D'autres personnes qui, peut-être, ne le voulaient pas, mais quand elles l'ont sous les yeux, elles se rendent compte que c'est absolument tout ce qu'elles ont toujours voulu sans jamais oser se l'avouer. Donc pourquoi ? Je pense que vraiment, ce qui est important dans la littérature, c'est la qualité. Et parfois, effectivement, se restreindre à des petites boîtes... ça peut effectivement restreindre aussi la qualité du texte. Donc voilà, début de réflexion.
Raconter de belles histoires, c'est la première volonté d'un écrivain comme vous, Alexandra ?
Yes, it's always about the story, it's always about the characters, and I think as far as the changing boundaries, that stories have to evolve. You can't just tell the same story over and over and over again just with new names. It has to, even as a writer, I have to change my boundaries or it becomes repetitive. So story after story, I try to evolve. I try to push my barriers and my boundaries so that I explore new ideas, new themes, or else I think it becomes boring for the reader.
Oui, je pense qu'avec mes personnages, il est important, raconter une bonne histoire, c'est ce que l'on recherche, mais il est important également que mes personnages évoluent. Je ne peux pas me contenter de raconter la même histoire, de la répéter à chaque fois, de changer le nom des personnages, mais toujours raconter la même histoire. Donc il faut faire des efforts dans ce sens, c'est-à-dire il faut chercher à faire évoluer les personnages, mais moi aussi, en tant qu'auteur, je dois chercher à évoluer et à explorer mes propres limites. Et donc je pense que c'est toujours important de continuer d'explorer ces limites, tant en tant qu'auteur et tant pour ce qui est de pousser ces personnages à évoluer.
Alexandra et Sir Cédric ont parlé d'explorer ses propres limites en tant qu'auteur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Yerdal, explorer ses propres limites ?
Explorer ses... moi, je ne sais pas, en fait, puisque... Ou alors, je les explore à chaque bouquin, puisque... Essayer de trouver un enchaînement logique dans les ouvrages que j'écris n'est pas toujours évident, quoi. Un coup, c'est un space opéra. Un coup, c'est comme demain une oasis. C'est un bouquin, on va dire, qualifiable. Je ne sais pas. On pourrait peut-être le ranger dans les objets littéraires non identifiés, les Rainbow Warriors. Et donc, les limites que je pourrais avoir, c'est éventuellement me cantonner à un genre. Mais comme je n'ai jamais su le faire, voilà, c'est ma façon de faire, en tout cas.
Explorer ses limites d'écrivain quand on écrit des livres pour enfants ou jeunes ados pour différents éditeurs, comment ça marche ? Comment est-ce qu'on sait où on peut aller ?
Comment on sait ? Ça, c'est difficile. Hein. C'est parfois l'éditeur qui nous le dit, hein, qui nous alerte parfois quand il arrive, que j'aille trop loin, c'est vrai. Voilà, donc là, ça dépend l'éditeur. Il y a des éditeurs qui sont plus à cheval. Quand j'écris pour Bayard Press, qui est quand même qui est de catholique, voilà, ils m'ont fait enlever des passages. C'est arrivé. Hein, quand mon héros soudain a pris une cuite, ça, c'est pas possible. Par exemple, là, c'est des choses comme ça. Voilà. Donc
vous voyez qu'on peut franchir les limites. Hein.
Oui. Voilà. Bon. Donc ça, c'est vrai, c'est embêtant. Heureusement, il y a d'autres éditeurs jeunesse qui acceptent tout à fait ça, donc il n'y a aucun souci. Voilà. Mais il y a certains éditeurs qui sont très à cheval là-dessus. Sinon, ce qui est bien en jeunesse, c'est ce que j'aime bien faire, c'est vraiment explorer tous les genres. Donc voilà, là, je me suis essayée à la science-fiction, c'était aussi explorer ma propre limite. Parce que j'aime beaucoup ça et je me suis dit, bon, est-ce que je peux le faire? Donc, c'est bien. On peut faire tous les genres en littérature jeunesse et ce n'est pas mal vu. Je veux dire, on est déjà presque un sous-genre en jeunesse. Donc, on s'en fiche, quoi. Voilà, on fait de la science-fiction, c'est encore un sous-genre de sous-genre. Et du coup, on n'a pas ces freins qui seraient d'ordre orgueil, voilà, de ce genre de choses. Voilà.
Morgane, sur la quatrième de couverture de votre livre, il est marqué « Pour public averti ». C'est vous qui aviez demandé ça ou c'est l'éditeur qui accroche un peu le lecteur ?
C'est concerté et oui, moi je trouve ça rigolo déjà. Et puis je pense que oui, je pense qu'une gamine de 12 ans peut pas lire ça et ce serait limite criminel. Enfin, il y a quand même des choses... Non, je pense qu'il y a des choses qui pourraient vraiment être perturbantes pour des enfants dedans. Donc, je pense que c'est quand même bien de dire que c'est quand même à partir de 16 ans. Quoi.
Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce livre ?
Me faire plaisir. Parce que j'aime bien ce qui est malsain. Moi. J'aime bien le gore, j'aime bien le sexe crado. Donc, voilà.
Le splatterpunk, le sexe crado, et ouais. Voilà.
J'aime beaucoup.
Et comment c'est reçu ? Vous avez eu des réactions nombreuses au sujet de ce bouquin ?
Je touche un public qui a les mêmes goûts que moi, hein, donc ils sont contents. Ils me disent « Oh, on attendait ça, on est super contents. » J'ai encore eu aucune réaction de « Oh, mon Dieu, c'est dégueulasse. » Pour l'instant, les gens sont contents. Après, voilà, je pense que ouais, comme il y a pour public averti, le quatrième de couverture n'est pas du tout mensonger, ça annonce la couleur, donc... le public visé est touché et les gens que ça ne branche pas ne l'achètent pas, donc il n'y a pas de souci, quoi.
Pas de souci. Sir Cédric, dans votre trilogie qui commence avec De fièvre et de sang, là autour de Esva Sverta, en fait, c'est peut-être davantage l'héroïne qui est sur la frontière, sur la limite, que l'écrivain.
Oui, moi, j'ai pas l'impression d'être à la limite quand j'écris ce genre de roman, mais comme je disais tout à l'heure, mes personnages sont tous à une frontière, à une limite, hein, par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur vie, par rapport aux autres. Mon personnage a un physique très particulier, elle a un passé très particulier, et c'est difficile d'en parler sans trop dévoiler en plus les ressorts de l'intrigue, mais disons que c'est une albinos qui a vu sa sœur jumelle se faire assassiner sous ses yeux quand elle avait l'âge de 6 ans, et qui est devenue flic. Pour ça et qui est finalement un monstre qui traque les autres monstres aujourd'hui. Donc, mais vraiment, par rapport aux limites, c'était surtout mon premier roman Angemort qui jouait avec ce concept où je me permettais d'avoir des scènes, comme je disais tout à l'heure, de pornographie avec des démons à multiples sexes tentaculaires et des choses que moi personnellement j'avais jamais lues en littérature. Que j'avais vu dans les mangas notamment, pour cet aspect-là, une partie de films gore que j'avais aussi beaucoup vu. Enfin, c'est toujours des influences très visuelles. J'ai l'impression aussi que les gens, quand on parle des limites, pensent surtout à l'aspect graphique et visuel, qui rappelle donc le cinéma, qui rappelle les choses qui peuvent choquer. Les images choquent plus finalement que les concepts, j'ai l'impression, en eux-mêmes. Parce qu'un concept bien écrit en littérature blanche, bien dépouillé, passe très bien, alors que... On le met en image avec du sang, avec des gens qui explosent, qui ont des comportements sexuels déviants. De suite, ça devient très choquant. Je ne sais pas si je suis très clair dans mon explication. Mais par contre, ce que je trouve aussi extraordinaire avec la littérature et par rapport à ses limites, c'est qu'il faut faire un effort pour lire. Donc, alors, à moins qu'on œuvre vraiment en littérature jeunesse, pour qu'un ado ou qu'un enfant découvre le texte, il faut... C'est compliqué pour lui, il faut qu'il trouve le bouquin, il faut qu'il le lise, ça arrive très peu, contrairement à des films qui peuvent facilement être interdits. Et je pense qu'on peut se permettre beaucoup plus de choses en littérature et aller beaucoup plus loin en littérature qu'on le pourrait dans d'autres arts, et notamment les arts audiovisuels.
Sir Cédric parlait de cinéma. Un des rêves d'Ayerdal, c'est que Rainbow Warrior soit adapté au cinéma, non ?
Ah oui, là, je voudrais bien franchir la limite, là. Bah oui, c'est un rêve. J'ai écrit le roman en pratiquement en le scénarisant pour le pour une major hollywoodienne. En plus, j'ai pas du tout pensé à un réalisateur francois. Ils font, je sais pas, on fait du cinéma en France et en Belgique, il paraît, mais alors personnellement, j'en ai jamais vu. Ouais, je franchis les limites là. Hein. J'entends le silence parmi mes amis réalisateurs qui sont absents. Oui, bah, je l'écris pour le cinéma et du coup, c'est marrant parce que c'est une façon de structurer une histoire qui est complètement différente, même si j'espère que ça se voit pas trop, enfin, si ça garde un petit aspect littéraire. Mais c'est plus punchy, quoi. Les relations entre personnages, il faut qu'elles soient nettes, claires, limpides, précises et que ça dépote. Et ça m'a beaucoup amusé. En fait, c'était pas la première fois que je le faisais, je l'avais déjà un petit peu fait avec Transparence.
Alors, il y a un héros dans ce livre qui est un général d'armée américaine qui est le chef des opérations et il a immédiatement pensé à un acteur américain pour le faire et il ne vise pas très bas, lui. Hein.
Non, bah écoute, quitte à faire, enfin, c'est Bruce Willis, quoi, faut être honnête. Non, mais puis il y a Angelina Jolie, il y a pas mal d'acteurs dans ce bouquin. Enfin, j'y suis allé franchement, non, mais il y a quelques copains aussi, hein, je vous rassure. Il y en a parmi vous, là, non voilà.
Ouais. C'est un film qui franchirait les limites pécuniaires aussi.
Ah ben non, faudrait quand même... Non, je pense que comme c'est une action humanitaire, que de tourner un film pareil, ça viendrait en aide à un auteur, ce qui est déjà énorme. On en sauverait au moins un.
Alexandra, 9 tomes des Gardiens de l'Éternité... En paranormal romance, d'habitude, ce sont toujours les mêmes héros qui reviennent au fur et à mesure des volumes. Ici, chacun des titres porte un nouveau prénom masculin et les personnages vont et viennent. Vous n'avez pas un personnage central. Ça, c'est aussi peut-être une limite que vous avez franchie en imaginant un monde tel que celui-là. D'habitude, c'est une seule héroïne en bitlite qui fait les 9 tomes et les suivants. Ici, c'est des héros et des héroïnes différents.
When I first started writing this series, it really just started as a first book. I just wrote the first book alone as a standalone book. So when I decided to write the second book, I was more interested in the clan of male vampires and their relationships and how they interacted in the world. And I love to take ordinary characters and put them in extraordinary situations. So I try to make my female characters people that we could relate to, or the reader could relate to, and then put them into these extraordinary situations and then have the interaction between the male clan, vampire clan.
Alors au début, quand j'ai commencé le premier livre de la série, en fait, ça ne devait pas être une série, ça devait être un seul livre, un seul roman. Et quand j'ai commencé à réfléchir à la possibilité d'écrire un second roman, donc d'en faire une série, j'ai eu envie d'explorer en fait ce clan des vampires, et c'était uniquement des hommes. Donc j'ai eu envie d'explorer les liens qu'il existait entre eux, entre les hommes vampires, et les liens qui les unissaient également à leur environnement et aux autres personnages du livre. Et donc moi, ce qui m'intéresse en fait dans ce genre de littérature, c'est de plonger une femme ordinaire dans une situation extraordinaire. Donc mes personnages femmes sont des personnages auxquels nous pouvons nous identifier, et ces personnages rencontrent des situations extraordinaires et je suis toujours curieuse de voir leur réaction. Donc c'était important pour moi cet aspect-là, que le lecteur puisse s'identifier aux femmes qui se retrouvent plongées dans ces situations extraordinaires.
Je croyais que les femmes aimeraient bien être approché par des vampires, des loups-garous, des monstres, des démons, etc.
Yes.
Ah, ben voilà, un cri du cœur. Morgane, après un premier roman un peu trash pour public averti, là, vous suivez cette transgression-là, vous continuez dans cette voie-là ou vous vous reposez un peu sur cet acquis?
Bah alors là, aujourd'hui, normalement, arrive mon essai qui parle du vampire dans les bayous. Donc, j'explique comment le vampire moderne, qu'on a plutôt l'habitude de voir en Europe de l'Est, en Transylvanie, est devenu une créature vraiment américaine et s'est établi dans les bayous et plus particulièrement à la Nouvelle-Orléans. Donc là, je suis partie plutôt dans une voie universitaire.
Oui, ça, c'est un essai.
Voilà, c'est un essai. Mais bon, j'ai quand même écrit ça de façon un peu marrante, un peu punchy. Puis je parle de sujets que j'aime bien, hein, l'inceste, la violence. Hein, j'analyse tout ça aussi, quoi. Et je vais continuer dans la littérature splatterpunk, hein, je ne vais pas m'arrêter. Et j'ai mon second roman, là, qui a été accepté par Mnemos et qui sortira sûrement en 2014. Voilà.
Et qui est dans, si j'ose dire, dans la même veine.
Dans la même veine, un autre univers, mais... Peut-être un peu moins de, peut-être un peu moins de gothique, un peu moins de punk, mais toujours trash, quoi. Et
quand vous dites l'inceste, etc., ce que j'aime bien, vous créez un personnage ou c'est vous-même?
Ah non, bah, j'aime bien dans l'absolu, après, je ne pratique
bien
pas.
Bien en parler, j'ai bien compris.
Non, c'est, je ne sais pas, je saurais pas pourquoi ça me fascine, mais toutes les relations déviantes... Enfin, j'aime lire ça et j'aime écrire ça, donc je vais continuer là-dedans.
Avec l'homme presque immortel, l'être humain presque immortel de Théa, vous avez eu l'impression de franchir une limite un peu psychologique dans la réparation de l'être humain. Vous continuerez aussi dans cette veine-là ou bien vous êtes bien obligé, de par votre profession, d'aller d'un endroit à l'autre d'une manière très mosaïque et très divergente?
Je ne suis pas obligée du tout, mais j'aime beaucoup. Donc, moi, j'aime bien alterner un petit roman humoristique pour les 8 ans. Et puis, voilà. Donc là, j'ai effectivement un nouveau projet, toujours pour Cyros, dans la même veine, effectivement. Voilà, toujours pareil. Ouais, effectivement, là, ça va être un autre sujet, mais encore une fois, explorer les limites éthiques et donc psychologiques qui s'en suivent. Voilà. Pour moi, la science-fiction, c'est ça.
Mais en fin de compte, Florence, on dit aujourd'hui transgresser les limites pour des bouquins pour enfants, mais les contes de Perrault, les contes de Grimm, etc., c'était plus que trash. Avec,
c'était très trash. Ouais,
des morts partout, des loups partout, etc. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on est arrivé à une version un peu plus édulcorée des choses, croyez-vous?
Ah, comment on y est arrivé, alors là? Walt Disney y est sans doute pour beaucoup. Mais effectivement, il y a un souci actuellement pour les enfants d'édulcoration, je trouve. Hein, effectivement, il y a quand même des auteurs effectivement qui tentent de franchir ces limites-là et des éditeurs qui les suivent. Ça arrive. Et pour adolescents aussi. Voilà, je pense par exemple aux éditions Sarbacane avec une collection qui s'appelle Exprime, que j'aime beaucoup. Donc là, voilà, ils explorent des personnages violés, des personnages, l'inceste aussi. Tout ça, on peut en parler en littérature adolescente. Pour enfants, non. Là, il y a encore toujours vraiment des contraintes d'ordre moral très fortes. Ouais.
Alexandra, votre éditeur vous impose des limites dans ce que vous faites ?
I think, yes, there's definitely limits. There's a certain expectation for a reader when they pick up a paranormal romance. They definitely expect a happily ever after, a happy ending. They haven't set limits on the amount of sex or violence that I can put in, but there's expectations, reader expectations that they expect me to meet.
Il y a, oui, des limites, mais qui ne sont pas imposées vraiment. En fait, c'est les attentes des lecteurs. Ce sont les attentes des lecteurs qui imposent les limites. Les lecteurs de Paranormal Romance attendent toujours une fin heureuse. Et on ne me limite pas trop le sexe et la violence, mais il y a quand même des attentes de la part des lecteurs. Et je pense que là, les attentes des lecteurs jouent beaucoup, en fait.
Et vous, Sir Cédric, vous avez, avec votre éditeur, des conversations sur ce que vous produisez ?
Non, pas vraiment. Enfin, jusque-là, j'ai la chance de... Enfin, ils me font confiance, donc je leur rends mon manuscrit. Et pour l'instant, chaque année, ils sont contents et ils le publient. Non, mais c'est le conte de fées parfait. En revanche, par rapport à ce qu'a dit Florence, c'est vrai que, parce qu'on ne l'a pas trop abordé, mais je pense que franchir les limites, c'est, on en a aussi besoin, et les enfants ont besoin... le but aussi des histoires, c'est aussi d'enrichir l'imaginaire, de nous apporter de nouvelles expériences, de nous faire réfléchir sur nous-mêmes. Et que ce soit pour les enfants, les ados, les plus anciens, le fait d'être bousculé, ça fait aussi du bien. Et le fait d'inventer des horreurs abjectes, comme le faisaient effectivement les Grecs déjà, ou le grand Guignol à une autre époque chez nous, ça nous permet de replacer des choses en perspective et de relativiser sur nos propres angoisses. Donc quelque part, c'est très sain en fait. Parfois, l'abject en art a un effet extrêmement sain sur nous et on en a besoin. Et c'est ce que souvent les censeurs oublient. Et du coup, ça crée des choses, justement des situations de déséquilibre aujourd'hui, des gens qui n'ont jamais eu accès à des choses un peu gore et qui finissent par tirer sur des gens dans la rue, quoi. Enfin, ça, c'est vraiment ce que je pense profondément.
Oui, c'est intéressant. Enfin, vous entendez comme ça, en tout cas tous les trois. Il y a les attentes du public, il y a l'éditeur, et l'éditeur occupe une place assez importante. C'est vrai qu'en littérature jeunesse, on le voit souvent décider de ce qu'on a le droit de d'écrire, de dire. Voilà, il en est le décideur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé la catégorie young adult, en fait. Qui n'existait pas il y a 10 ans. Enfin, soyons sérieux, c'est né avec la bitlit, quoi. Et young adult, c'est quoi? En fait, c'est la jeunesse à qui on a le droit de parler de cul. Donc, c'est comme quand on met sur YouPorn, par exemple, c'est toutes des teens, n'est-ce pas? Mais elles ont 18 ans, hein. Elles n'ont pas 17 ans et 364 jours. Elles ont 18. Donc voilà, ces limites sont amusantes. Et en matière d'éditeurs, toujours, il y en a une autre que j'aimerais bien qu'on... Enfin, les éditeurs franchissent une certaine limite. Par exemple, dans le cadre de la traduction, on voit de plus en plus de textes venant de l'anglo-saxon complètement édulcorés dans leur version française. Ça a toujours été le cas? Non. Ah oui, non, mais non. Oui, alors comment dirais-je, Arlequin? Comment dirais-je? Voilà. Je pensais, dans nos merveilleux domaines de l'imaginaire, il y a des éditeurs qui produisent beaucoup. Il y en a un en particulier qui produit énormément et qui édulcore réellement les textes venant de l'anglo-saxon.
Mais non.
Ah ben, je sais pas. Stéphane, t'es où? Voilà, il n'est pas là. En plus, il peut même pas se défendre, donc c'est pas rigolo. Et cette édulcoration, elle ne se fait pas forcément en fonction de critères de violence ou de sexualité. Elle se fait en fonction de niveau de langage. On édulcore la langue. On va jusqu'à l'appauvrir un maximum de façon à ce que les livres, enfin dans la tête de l'éditeur, j'imagine, soient accessibles à tout le monde. Et je pense que s'il y a une limite qu'on se doit, nous, de franchir tout le temps, c'est de refuser ça, refuser d'appauvrir la langue, refuser d'appauvrir la qualité littéraire, et refuser de se priver d'utiliser des mots qu'on a sortis du dictionnaire il y a 10 ans pour les remplacer par des mots publicitaires. Par exemple, enfin, je sais pas, moi, il y a un mot que j'adore, c'est le mot dégraissance. Essayez de le trouver dans un dictionnaire aujourd'hui. Je peux même vous dire à quelle date le Robert Laffont, le petit Robert l'a viré. Robert Laffont, tiens, s'il m'entendait là aussi. En 2001, le petit Robert vire le mot négrescence. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la place pour le mot magique soyance. Vous rappelez ce que c'est, soyance? Il y a un trademark dessus, hein. C'est L'Oréal qui faisait ça. Dans les années 70, ça a été toute une gamme de produits. Dans les années 80, je dis, en plus je sais parce que j'étais au marketing chez eux à ce moment-là, et c'était toute une gamme de produits qui a été balancée là-dessous. Et bien, à force d'en parler, à force que les journalistes répètent ça au journal de 20 heures, on a fini par coller dans le dictionnaire. On a remplacé des mots qui avaient un sens pour mettre des mots qui viennent de l'univers publicitaire. C'est merveilleux. Je pense que nos limites, à nous, c'est... Non, il n'y en a pas, il faut qu'on continue. Je suis content, j'ai dit des méchancetés.
Alexandra, vous lisez... Vous vous souciez de vos traductions?
No, I accept that when they're translated into other languages and into other countries, that they're going to have to meet the expectation of the publisher, and that at some point it probably is going to be some words, as you say, are going to be taken out. When I'm writing, I don't usually, with the sex scenes, I don't do it as much to press the boundaries, as there are just some characters that when you write them are rougher, and so the words become steamier and hotter. So I do think it changes the character which is a little worrisome, but I accept when it's in other languages that that it's just going to be changed.
Alors quand je suis traduit en d'autres langues, eh bien je pense que les attentes de la maison d'édition font loi. Et en ce qui me concerne, bon, je sais qu'il y a des mots qui vont être modifiés. Pour ma part, quand j'écris par exemple les scènes de sexe, je veux dire que le vocabulaire qu'utilisent mes personnages dépend du personnage. Il y a des personnages qui sont plus durs, donc ils vont utiliser un vocabulaire plus dur. Et après, bon, en traduction, je sais qu'il y aura forcément des modifications qui seront apportées au vocabulaire.
Et ça ne vous fait rien?
No, it. I mean, I accept that when it's going to be into a new culture, that it's going to have to meet their expectation, their reader expectation, their publishing expectation. So it's one of those things where it's out of my control, so I try not to worry about it.
Bien, je comprends très bien que quand le livre sera adapté pour une autre culture, il y aura des modifications qui seront apportées pour répondre aux attentes de la maison d'édition et des lecteurs. Mais c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler, donc je préfère ne pas m'en faire.
Une attitude bien pragmatique, mais raisonnable. Sir Cédric, cette étrange héroïne qu'est Eva Svarta, on en saura bientôt plus sur son compte ?
Elle revient en octobre dans une nouvelle aventure encore plus barrée et encore plus angoissante avec encore plus d'action. Voilà ce que je peux en dire pour l'instant.
Nous saurons tout d'elle à ce moment-là ?
On en saura un peu plus, peut-être.
Ça, c'est les limites à ne pas franchir, c'est tout dire pour ne pas devoir faire un cinquième ou un sixième. Et il a un contrat d'édition, il ne peut pas en parler avant. Et Heyerdahl ? Après les Rainbow Warriors, on va avoir quoi ?
Ah, bah, je vais encore essayer de surprendre un petit peu. Donc, je vais faire un roman de Bitlit.
Ah, on attend ça avec une grande impatience.
Et non, mais c'est sérieux. Ça s'appelle Bastards. Parce que ça se passe à New York, donc il fallait que je mette un mot anglais. Maintenant, j'ai remarqué que les mots anglais se vendaient vachement mieux. J'avais essayé avec Rainbow Warriors, et paf, c'est terrible. Et donc là, je mets Bastards. Donc c'est un roman de Bitlit au départ. Ça, c'était mon idée géniale. Je me suis dit, tiens, il y a un domaine dans lequel jamais j'irai travailler. Je vais faire un roman de Bitlit. Et j'en ai parlé à Sarah un soir quand j'ai eu cette idée. Et Sarah explosait de rire. Elle m'a dit, ah non, ça, c'est pas de la Bitlit. Voilà, moi, j'étais persuadé que c'en était. Mais alors, c'est vrai que de la Bitlit sans vampire, bon, sans loup-garou, bon, sans sexe. Enfin,
comment sans sexe ?
C'est moyen où tous les personnages sont des auteurs vivants, connus. Et les copains, ils vont morfler. Hein. Non, mais si, il y aura un petit côté fantastique très très fort. Ça va être un thriller fantastique où j'espère à la fois vous faire peur et puis je vais faire l'effort de mettre un passage porno par chapitre.
Ce qui est terrible avec lui, c'est qu'on ne sait jamais s'il dit la vérité ou non. Oh, parce que la dernière fois que je l'ai vu, il m'avait parlé d'un roman ambitieux, utopiste, etc. Et il ne m'avait pas du tout parlé de Bitlit. Ah là là. Nous allons voir ça dans les prochains mois. Bien, ben, il est moins 10 et on nous a demandé de terminer les débats à moins 10 de façon à ce qu'il y ait 10 minutes de battement entre celui-ci et celui qui vient. Je vous remercie de votre attention. Je remercie Florence, Morgane, Heyerdahl, Sir Cédric et Alexandra. Et bonne journée à vous.